Bonjour à tous, bienvenue à Happy Ed Tech, le rendez-vous technologique de la formation. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Snéna Busson, qui est la fondatrice d'un élément important dans l'écosystème technologique de la formation, qui est LearnSpace, un accélérateur de start-up, donc dans l'Ed Tech, bien évidemment. Donc, et cet accélérateur est assez récent, puisque 2017. Donc, ça veut dire qu'on va découvrir qu'est-ce qu'il représente. Qu'est-ce qu'il apporte? Et donc, pour ça, on a la chance d'avoir Manal Ratnam qui va poser toutes les bonnes questions.
Manal. Merci Stéphane. Merci d'être venu aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions. D'abord, la première question, c'est quoi LearnSpace? Comment l'idée est venue? Et c'est quoi pour vous un accélérateur? Est-ce que c'est la même chose, par exemple, qu'une couveuse ou pas du tout, du tout, du tout? Donc, vous nous direz tout.
Bonjour, merci pour l'invitation. L'idée de LearnSpace est venue lors de voyages que je faisais. Je faisais des voyages apprenants dans le monde entier pour aller voir en fait comment on apprend, quelles sont les innovations learning un peu partout dans le monde. Et donc, ce que j'appelais donc les EdTech Tours, j'en faisais tous les ans et je continue à en faire tous les ans. À chaque fois, je me donne un continent et je pars 2 mois pour aller explorer toutes les innovations et toutes les tendances qui se passent dans ce monde-là. Et c'est vrai que lors d'un de mes voyages, j'en étais à mon 15e pays et je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ce réseau immense que j'ai bâti partout dans le monde, d'écoles, d'universités, d'entreprises, curieuses de savoir comment le learning allait se développer, curieuse de travailler aussi avec des nouvelles structures, beaucoup plus rapides, beaucoup plus flexibles, qui sont les startups qui amènent des vraies innovations. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je puisse aider ces startups en fait à trouver leur marché, à s'internationaliser, à trouver en fait le product market fit. Ça veut dire est-ce qu'il y a un fit entre le produit que je crée et le marché que je vise en fait. Et donc comme moi j'étais vraiment voilà, moi c'était plus le côté éducation, learning, etc. qui me passionnait. Je me suis associée avec des experts en marketing, en business, en finance, avec des fonds aussi qui m'ont aidé, des VC qui m'ont aidé aussi à coacher ces startups là pour qu'elles puissent grandir, potentiellement lever des fonds, etc. Donc, je me suis associée avec toutes les bonnes personnes et j'ai créé un programme d'accélération pour des startups de la EdTech qui travaillaient dans l'éducation et la formation. Accélération et pas incubation. Incubation, c'est vraiment au tout début de l'histoire d'une startup. L'incubation, ça dure en général beaucoup plus longtemps, entre 6 mois et 1 an. Et c'est vraiment pour se lancer, lancer sa start-up, lancer son modèle, tester des choses. Nous, on était un cran au-dessus, c'est-à-dire que nous, notre programme était beaucoup plus court. C'était un programme de 3 mois. Et donc, on s'adressait à des start-up un peu plus matures, qui avaient déjà testé un certain nombre de choses, qui avaient un produit déjà, et qui avaient des utilisateurs qui étaient déjà dans une certaine croissance et qui avaient besoin d'un coup de boost. Et donc voilà, on a regardé dans toute l'Europe, on avait un scope européen, on a regardé dans toute l'Europe quelles étaient les pépites qu'on pouvait accélérer. Et on en a choisi 5 qu'on a accompagnées pendant 3 mois et qu'on a placées dans différentes entreprises.
Alors, un accompagnement, ça représente quoi? C'est un expert qui vient, c'est une formation, c'est de la conférence, ça prend quelle forme?
Très bonne question. Alors, nous, et souvent c'est le cas dans les différents accélérateurs, c'est qu'en fait, on avait un programme de 3 mois dans un lieu fixe donné. Donc, en fait, elles sont toutes venues chez nous et elles avaient leur bureau chez nous. Donc, elles étaient vraiment toutes ensemble tout le temps pendant 3 mois. Il y avait des moments, évidemment, où on les laissait travailler parce qu'il fallait bien qu'elles puissent avancer et faire ce qu'elles devaient faire. Mais par semaine, il y avait à peu près 2 masterclass. Où on invitait des experts sur différents sujets, donc elles pouvaient choisir les masterclass qu'elles voulaient faire. Et donc, il y avait des experts. Puis bon, on invitait un directeur formation pour venir leur parler de ce qui se passe dans son département, quels sont ses besoins à lui, qu'est-ce qu'il recherche, etc., pour qu'elles puissent déjà créer des liens avec des acteurs du terrain, en fait. Et ça, c'était très important pour nous de vraiment leur montrer comment ça se passait sur le terrain. Après, il y avait des masterclass financement avec les VC, il y avait des masterclass design pour leurs produits avec des designers, etc. Donc, on regardait tout le scope Il y avait aussi beaucoup de masterclass avec des chercheurs avec lesquels on travaillait, parce que pour nous, c'était essentiel de leur dire, écoutez, l'éducation, la formation, c'est aussi une science, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, c'est pas parce que vous avez une idée d'une app que ça va être génial et que ça va marcher. Il faut que vous preniez en compte, en fait, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur notre cerveau, comment il apprend, etc. Et donc, on avait des expertes en sciences cognitives, des chercheuses qui venaient toutes les semaines leur donner des sessions de mentoring où elle leur disait, bah voilà, ton produit il a bien évolué, mais si tu prenais en compte plus cet aspect de l'apprentissage, tu aurais un impact beaucoup plus important, etc. etc. Et donc ça leur permettait aussi de créer un produit, d'évoluer leur produit de façon à ce qu'il y ait un vrai impact derrière sur l'apprentissage et la rétention.
Donc ça veut dire 5 apprenants et beaucoup plus d'enseignants?
Ah oui. Oui, bien sûr, on les chouchoutait parce que nous, on avait parié entre guillemets sur ces 5-là et il fallait derrière qu'on mette beaucoup en œuvre pour qu'elles puissent grandir, qu'elles puissent se développer, etc. Parce que le modèle d'un accélérateur, c'est aussi de prendre des parts dans ces startups-là. Et donc, nous, on a des parts dans ces 5 startups, donc c'était hyper important pour nous qu'elles aient le meilleur service possible pour qu'elles puissent grandir, se développer, etc.
D'accord. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Tu voulais
Alors,
dire quelque chose?
Peut-être, qui finance l'ensemble de ce programme? Ce sont les startups elles-mêmes?
Ah non, les startups ne nous... En fait, nous financent avec de l'equity, donc des parts de leurs entreprises. Typiquement, nous, c'était 3% en échange de ce programme. Et nous, on était financés par des partenaires, des entreprises partenaires. Donc, typiquement, Acadomia avait financé notre première promo. On avait des partenaires, des sponsors quoi, pour nous financer, nous. Mais c'est vrai que depuis, on a complètement changé d'optique, et ça, je pourrais vous en parler peut-être un peu plus tard. Oui. C'est-à-dire qu'on a fait cet accélérateur, maintenant, on a pivoté, comme on dit dans le langage start-up, on a pivoté et on est devenu une entreprise un peu différente, qui accompagne encore des start-up, mais pas sur un programme de 3 mois. Aujourd'hui, on les accompagne dans un réseau qu'on anime, mais on se focalise aujourd'hui beaucoup plus sur des entreprises qu'on accompagne dans leur stratégie de transformation learning. Ainsi que des universités. Donc voilà.
C'est une très belle... vous venez de parler de réseau, c'est la question que je voulais vous poser. Vous parliez de réseau de différents acteurs, que ce soit terrain, chercheurs, universitaires, etc. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas finalement de créer un certain écosystème d'accélération ou même de fabrique de l'innovation autour de l'EdTech au final?
Alors moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut penser en réseau. Effectivement, je pense pas que une start-up toute seule peut aller loin. Je pense qu'il faut qu'elle travaille en réseau, et c'est ça qu'on a essayé de mettre en place. De dire aujourd'hui, il faut travailler avec ceux qui sont sur le terrain, il faut travailler avec les formateurs, il faut travailler avec les enseignants, avec des chercheurs évidemment, avec des designers, avec tout un nombre d'acteurs. Et c'est vraiment cette idée qu'on a voulu mettre en place et qui est mise en place dans plein d'incubateurs et d'accélérateurs de la tech un peu partout dans le monde, dont on s'est inspiré. Il y a un programme incroyable qui s'appelle Educate, qui est basé à Londres, qui fait exactement ça. En fait, c'est vraiment des startups qui viennent qui vont donc l'université College de Londres et qui viennent et pour une certaine période travaillent des chercheurs, travaillent des enseignants, travaillent en réseau en fait. Et c'est vraiment, on s'est beaucoup inspiré d'eux. Aujourd'hui, ils créent leur propre incubateur en France, dans le département du Val d'Oise, en partenariat avec le Val d'Oise. Et donc, on va avoir le premier programme Educate français qui va se lancer très bientôt. Donc, même si Landspace ne fait plus un programme de 3 mois comme avant, les startups aujourd'hui ont cette alternative avec Educate France.
D'accord.
Et est-ce qu'il y aurait des licornes possibles dans les startups, dans les 5 startups, ce qui est un peu dingue. Puisqu'on cherche les 25 licornes pour 2025. Hein,
je sais. Alors, oui, j'espère, mais c'est évidemment biaisé. Bien sûr, on a vraiment des perles, dont une startup qui travaille justement sur du corporate learning, la formation professionnelle, qui s'appelle We Are Peers, WAP, nous sommes pairs, et qui est une startup qui déploie l'apprentissage par les pairs dans les organisations, au niveau de... des programmes de formation en fait, qui ne se font uniquement par les pairs, avec des gens d'autres départements qui se retrouvent, qui font des sessions d'une heure à deux heures et qui partagent leurs connaissances. Et c'est un succès fou. Et c'est vrai que je pense que de plus en plus d'entreprises cherchent à déployer le social and collaborative learning parce que ça fait partie de ces nouvelles formes d'apprentissage qui ont un très fort impact derrière sur la rétention et l'engagement de l'apprenant. Donc typiquement, celle-ci, je pense que voilà, je pense qu'ils iront très très loin voilà.
Alors c'est amusant parce que Learning Business voulait les interroger, donc on les interrogera en début d'année prochaine, donc on aura l'occasion de pouvoir savoir un peu ce qu'il y a derrière ça avec beaucoup
génial.
De plaisir.
Super.
D'accord, vous nous avez dit que la stratégie de départ c'était 5 apprenants et que finalement vous avez fait un pivot comme vous avez cité. Est-ce que c'est pour passer à plus de personnes, plus de personnes accompagnées, ou est-ce que c'est juste pour changer de méthode?
Alors, c'est pour passer à un accompagnement qui est différent pour les startups. Mmh. Comme je disais, maintenant, on veut créer un vrai réseau. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent rejoindre le réseau LearnSpace. Il y a un lien sur notre site web pour candidater. Et en fait, faire partie de ce réseau, on va pas t'accompagner dans le sens où on ne va pas être près de toi pendant 3 mois et te couver, te présenter à toutes les bonnes personnes. Par contre, on veut des startups qui sont un peu plus matures dans ce réseau, qu'on va pouvoir directement présenter à nos clients. Parce que nous, on travaille avec plein de grands groupes français actuellement qui nous demandent aussi de les mettre en contact avec ces startups-là. Et donc, du coup, pour étoffer un peu cette offre, on va augmenter dans le nombre de ce réseau et intégrer des startups qui travaillent plus sur des sujets de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, parce que c'est là où sont nos clients actuellement pour lesquels on fait des missions de conseil, d'accompagnement. Et donc, c'est vraiment pour ça, en fait. On veut concrètement leur proposer des opportunités business chez nos clients et nos partenaires.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, LearnSpern est une sorte de coordinateur entre les entreprises que vous appelez clients ou clients potentiels et entre les startups qui apportent les solutions, peut-être éventuellement, enfin, chercher innovantes? C'est plus le modèle aujourd'hui.
Complètement. Oui, on peut dire qu'on est vraiment, on est entre les deux. On essaie de faire le pont en fait entre ces startups et des entreprises et des universités pour faciliter en fait cette collaboration qui, comme disait Stéphane, n'est pas toujours évidente, voilà, parce que elles n'ont pas la même taille, elles n'ont pas la même façon de faire, elles n'ont pas les mêmes temps, voilà. Souvent une startup doit aller très vite, doit déployer très vite. Un grand groupe qui travaille avec une startup et qui met déjà 6 semaines à se décider, à signer le premier devis, etc. C'est compliqué parfois pour une startup, ouais.
Et vous faites quoi un peu pour concilier ces différentes façons de faire, ces différentes démarches, ces différentes cultures des fois ?
Ouais, c'est pas toujours simple, mais disons que comme on se place entre les deux, disons qu'on on crée ce lien et souvent ça passe par nous. Donc une fois que le contrat est signé avec nous et qu'on a déjà inclus des sessions, des moments avec ces startups là, c'est plus simple. C'est-à-dire que du coup on les appelle, on leur dit le 10 janvier tu as une session avec le département formation de telle entreprise. Donc prépare-toi, tu vas leur pitcher, tu vas leur faire expérimenter ton produit, etc. Et c'est ça en fait, c'est en l'expérimentant souvent que les gens se rendent compte à quel point ça a de la valeur. Et c'est pas avec un pitch marketing que ça va marcher. Donc nous, on inclut déjà dans toutes nos missions en fait des moments start-up où on leur fait rencontrer des start-up. Et ensuite, si le courant passe et qu'ils ont apprécié cette expérience, ils vont les rappeler et ça va être beaucoup plus rapide derrière pour mettre en place en fait la solution au service de la start-up.
D'accord.
Ce qui veut dire qu'en préalable, en amont, vous les avez préparés à faire des pitchs. Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de startups qui ont du talent ont des pitchs qui sont assez, avec un potentiel d'amélioration, pour être assez sympa.
Exactement. Nous, c'est très important et on essaye vraiment soit de les mettre en contact avec les bons coachs, parce qu'on leur fait vraiment comprendre que c'est important d'investir dans leur prise de parole et dans l'apprentissage de la prise de parole et du pitch, parce que encore une fois, ça s'apprend, quoi. C'est pas forcément inné. Donc oui, on travaille beaucoup là-dessus. C'est assez essentiel, ouais.
Tu voulais dire quelque chose, Stéphane ?
Non, je t'en prie.
Et c'est quoi les règles d'entrée, que ce soit pour les startups ou pour les grandes entreprises? Est-ce que c'est moyennant quelque chose de financier, des règles à respecter, une forme à respecter ou...
Alors, pour les startups, il n'y a pas de règles spécifiques pour entrer, c'est-à-dire il faut juste candidater, il y a un petit formulaire sur le site web, donc c'est très facile. Après, c'est vrai que si, après avoir présenté ces startups aux différents clients avec lesquels on travaille, si on voit que ces startups signent un contrat avec un de ces clients-là, nous, on va agir en tant qu'apporteur d'affaires et on va prendre un petit pourcentage du contrat. Voilà. Donc, si on a réussi, alors faire un contrat et à faire voilà, qu'ils aient une opportunité business grâce à nous, on va prendre un pourcentage en tant qu'apporteur d'affaires. Ouais. Mais pour les entreprises, bah, en fait, les entreprises, c'est un modèle classique de boîte de consulting, quoi. C'est-à-dire qu'elles viennent nous voir parce qu'elles ont une problématique, un défi, et nous, on les accompagne. Et donc, ça, typiquement, voilà, c'est assez typique. Après, on développe différents produits et différents services pour les entreprises. Là, on a créé tout un outil diagnostique en fait sur l'entreprise apprenante. Donc ça typiquement c'est un outil qu'on vend ou qu'on va vendre aux entreprises. On dit voilà, on a ce super outil de diagnostic. Si vous voulez qu'on vous aide à vous positionner sur l'échelle de l'entreprise apprenante, on peut le faire. Et voilà, on a le bon outil pour ça, etc. Et donc là typiquement, on va aussi vendre nos propres produits de plus en plus vers l'extérieur.
D'accord. Pardon.
Est-ce que pour aller dans le sens des responsables de formation en entreprise, est-ce qu'il y a aussi une évangélisation? C'est-à-dire que le fait de dire qu'ils ont des besoins, ils sont souvent un peu classiques, les besoins, ou alors ils ont identifié ceux qui savent, parce qu'il y en a qui font le travail, mais ils sont minoritaires. Est-ce que vous avez un travail d'évangélisation où vous leur dites on se réunit sur des universités, des conférences, des associations, pour qu'ils aient conscience de ce qu'ils peuvent faire?
C'est une excellente question, on aimerait beaucoup faire ça, voilà, pour l'instant, c'est-à-dire pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient lors de leurs séminaires. Souvent, on nous demande d'intervenir et de donner de l'inspiration pendant les séminaires d'entreprise et des séminaires en fait d'équipe de direction de formation. Ça, on le fait parce qu'en fait, on a ce background de voyage dans le monde entier. Voilà, on est un peu, enfin, des professionnels de la veille, donc on va aussi pouvoir les nourrir avec de nouvelles choses, de nouvelles idées, des tendances. Donc ça, ils aiment beaucoup. Donc souvent, c'est un peu notre porte d'entrée aussi vers une mission parce que d'abord, les gens ont besoin d'être inspirés, ont besoin de voir comment on peut faire différemment, etc. Et c'est vrai que ça, on le fait. Après, ça reste pour une entreprise donnée. On aimerait bien faire de l'inter-entreprise plus, mais on n'a pas forcément toujours voilà, les bonnes occasions. Mais c'est vrai que des séminaires d'entreprise, on en fait, et de plus en plus, parce qu'on a aussi ce background d'explorateur, d'innovation pédagogique, etc. Et c'est souvent pour ça qu'on nous appelle au début. Et ensuite... Voilà, ensuite, on peut proposer d'autres de nos services et voilà, c'est comme ça qu'on crée des relations avec nos clients.
Alors peut-être une parenthèse, parce qu'il y a eu une demande de nos membres, donc elle est peut-être représentative. Comment est-ce qu'on fait quand on se dit j'aimerais bien faire un tour de l'EdTech dans le monde? Comment est-ce qu'on s'y prend? Parce qu'il y en a pas mal d'entreprises qui sont intéressées ou des personnes qui sont en repositionnement, qui disent c'est génial, mais comment je démarre? Première step.
Alors, comment je démarre? Bah, en fait, c'est assez simple. Je pense que d'abord, il faut se dire, bon, moi, au début, ce qui m'intéressait, c'était la tech et comment elle pouvait transformer, voilà, l'apprentissage à tous les âges. Donc, j'avais vraiment un sujet précis. Après, on peut avoir d'autres sujets, hein. C'est très vaste, le learning. Mais moi, j'avais un sujet précis. Donc, je suis allée un peu voir qui dans le monde travaillait sur ces sujets. C'était au tout début, hein. Moi, j'ai commencé en 2013 à m'intéresser à ce sujet. En France, en 2013, la tech, personne n'en parlait. Voilà, on parlait juste de MOOC et encore. Donc, voilà. Et donc, je suis allée piocher un petit peu différents experts sur Twitter, sur LinkedIn. J'ai tapé des mots-clés, j'ai trouvé des gens. Et ensuite, en fonction de ces gens, en fonction de ces innovateurs, j'ai choisi des pays où je voulais aller. Et dans ces pays, bah, j'ai fait attention à ce qu'il y ait un écosystème start-up grandissant, à ce qu'il y ait voilà, des belles histoires de transformation, soit d'entreprise, soit d'université, etc. Donc, j'ai choisi différents pays comme ça, en faisant beaucoup de recherches en amont. Et ensuite, dans chaque pays, j'ai identifié donc, ces innovateurs qui sont très présents en ligne et qu'on peut voir. Et en fait, c'est eux que j'ai rencontrés en premier. C'était un peu mes ambassadeurs dans chaque pays. Et donc, j'arrivais, je rencontrais mes ambassadeurs et qui me disaient, ah, mais il faut absolument que tu rencontres un tel, un tel, un tel, parce que c'est eux qui savent le mieux, c'est eux qui
Oui, c'est
connaissent leur
ça.
écosystème. Et c'est grâce à eux que j'ai rencontré vraiment des pépites un peu partout dans le monde. Je pense que c'est très important d'avoir ces ambassadeurs-là qui peuvent aussi vous mettre en relation avec les différentes bonnes personnes sur le terrain, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et après, bon, moi j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire financer tous ces voyages par des mécènes, par des sponsors. Alors c'était beaucoup de travail, hein. C'était pas que de la chance, c'était beaucoup de travail. Mais je pense que voilà, quand on a un projet concret avec un site web qui explique vraiment ce qu'on veut faire, avec un vrai parcours en fait, les gens ça leur parle. Ils se disent je fais partie d'une aventure que j'ai envie de soutenir. Et c'était vraiment ça, quoi. On a eu des ouais, des partenaires assez incroyables qui ont juste voulu soutenir un peu ce projet fou de faire le tour du monde et d'aller voir voilà d'aller voir des initiatives les plus innovantes quoi et d'en parler.
Et c'est extraordinaire parce que ça donne une légitimité quand on revient, parce que ce travail-là, il y a très peu de gens qui le font. Et quand on revient et qu'on l'a fait, ça veut dire qu'avec ce qu'on a pu regarder, finalement, on apporte une expertise.
Exactement, exactement.
Ouais. Anal.
Ouais, et mon prochain tour, justement, ça va être un tour sur le sujet du futur du travail et comment, en fait, le learning transforme le futur du travail. Donc là, en fait, je fais un tour spécifique sur cette thématique-là. Et donc, typiquement, voilà, je vais commencer à faire des tours thématiques parce qu'en fait, la tech, c'est tellement large que, en fait, je touchais à tout, quoi. Je touchais à du scolaire, mais je touchais aussi à de la formation. Enfin, donc là, en fait, je vais commencer à faire des tours plus thématiques et plus ciblé.
Par futur, qu'est-ce que tu entends par futur?
Alors, j'entends que les grandes mutations en fait du monde du travail, du monde de l'entreprise en particulier, et comment en fait ces mutations peuvent avoir lieu par une transformation learning. Donc, je vais aller voir des entreprises assez pionnières sur ce sujet-là, qui ont investi massivement dans une transformation learning pour faire de l'upskilling, pour faire du reskilling et pour complètement transformer leur boîte, quoi, comme c'est le cas de par exemple AT&T aux États-Unis, un opérateur téléphonique qui a vraiment investi plus d'1 milliard dans la transformation learning d'abord, quoi. C'était pas transformation digitale, transformation learning d'abord. On transforme les gens, on transforme leurs compétences, on transforme ce qu'ils peuvent faire au sein de l'entreprise. Et ensuite, voilà, ensuite on peut penser à tout le reste parce que, en fait, ça commence par là, en fait, ça commence par l'humain. Et donc, j'ai envie d'aller voir toutes ces entreprises pionnières, d'interviewer leurs équipes formation, de comprendre comment ils ont fait et ensuite d'écrire un rapport et de le partager. Voilà.
Bon, on le lira avec plaisir.
Et donc, tout ce travail-là qui a été fait de coordination à la fois entre les startups et les grandes entreprises qui sont les clientes, ça m'amène à poser deux questions et qui peuvent être posées en une, c'est-à-dire quelles sont à la fois les problématiques et les solutions qui émergent dans le monde de l'e-tech aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça reste classique? Est-ce qu'il y a des choses qui sont nouvelles sur lesquelles on doit se pencher?
Tu veux dire, est-ce que tu parles de tendances technologiques globales ou est-ce que tu parles de problématiques propres au monde de la formation
Les deux, en fait, c'est les deux questions.
Je pense que c'est lié parce que les problématiques aujourd'hui, c'est des problématiques d'engagement de l'apprenant de plus en plus, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, comment motiver les gens à venir en formation, à se former sur différents façons de faire, quoi que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne, il y a un vrai problème d'engagement. Donc je pense que ça c'est la première chose, et comment on répond à ce problème d'engagement, c'est en créant des expériences apprenantes qui soient vraiment incroyables, enfin qui soient vécues de façon à ce que les gens déjà s'en souviennent, soient touchés, enfin qu'il y ait de l'émotion, donc en fait il y a plein de choses aujourd'hui à prendre en compte quand on crée un parcours de formation, quoi. C'est plus comme avant où on se disait bon, on a des budgets à dépenser, il faut qu'on fasse une formation sur tel sujet, on va le faire. Là il faut vraiment penser à toute l'expérience apprenante, et donc pour ça les startups peuvent aider, évidemment, peuvent aider à mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles expériences, typiquement de l'apprentissage expérientiel à travers de la réalité virtuelle. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, surtout pour des métiers à risque, où voilà, on peut se tromper autant de fois qu'on veut, c'est pas grave, on est dans un monde virtuel. Donc typiquement une startup comme Uptail va proposer des solutions dans ce sens. Ensuite c'est de dire, si on fait de l'apprentissage en ligne, il faut le faire bien. Il ne faut pas se dire qu'un parcours de formation en ligne de 4 heures sur un sujet qui ne parle pas forcément aux collaborateurs, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Si on fait du en ligne, pourquoi pas faire du micro-learning, faire vraiment des choses qui peuvent être consommables à différents temps de la journée, de la semaine, etc. Donc typiquement des startups comme Corp Academy qui peuvent proposer des micro-formats de formation qui sont un peu plus adaptés à des gens qui juste n'ont pas le temps, quoi, et qui vont vous dire j'ai pas le temps de faire 4 heures de e-learning. Et ensuite, vous avez plein de sujets autour de la personnalisation, en fait, de l'apprentissage, et de faire en sorte qu'en fait, chaque apprenant puisse avoir son propre parcours d'apprentissage personnalisé. Et aujourd'hui, on a des technologies pour, on a des technologies d'adaptive learning qui permettent en fait de personnaliser des parcours d'apprentissage et de faire que, voilà, selon le niveau de chaque apprenant, on va lui faire un parcours qui est personnalisé. Et ça, c'est assez je pense que c'est assez transformationnel aussi pour la formation.
Est-ce qu'il y a beaucoup en France d'entreprises qui sont, quand on prend par exemple la personnalisation, c'est souvent assez, on décide certains parcours en amont, en disant on a une dizaine de parcours, on fait en sorte que l'apprenant se cale dessus. Ce qui peut être, ce qui est finalement assez classique, mais en un peu plus grand nombre, ça n'aborde pas par exemple le problème du big data, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre toutes ces données-là avec des algorithmes et les faire tourner de façon à véritablement personnaliser, et donc là il faut la machine. Est-ce qu'il y a vraiment des startups qui travaillent un peu dessus, sur l'intelligence artificielle?
Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore, disons qu'on pourrait le faire, mais ça requiert, comme tu dis, énormément de data. Souvent, la data, elle n'est pas dispo. Enfin, je sais qu'il y a des startups qui essayent vraiment de développer ça, typiquement Domocio, qui est une startup qui essaie de développer ça, mais encore une fois, on n'est pas... Je pense que en France, voilà, on a encore une petite marge de progression. Typiquement, des entreprises comme Area 9 aux États-Unis, qui est une entreprise en fait danoise implantée aux États-Unis, sont un peu plus avancées sur ces sujets-là. Mais encore une fois, en fait, c'est impossible de faire de l'IA si on n'a pas la data, quoi. Et donc derrière, si des entreprises ne collectent pas la bonne data et n'ont pas les bons réflexes, ça va être compliqué en fait de leur proposer cette solution-là. Donc je pense que c'est un mindset qui doit changer. Chez tous les acteurs en fait de la formation, de dire qu'en fait la data ça peut nous aider à créer des parcours de formation qui sont encore plus pertinents pour nos collaborateurs, quoi.
Si on veut revenir un peu aux problématiques émergentes, est-ce que on peut se permettre de dire que au final les problématiques qui émergent dans le monde de l'e-tech, c'est les problématiques qu'on a vues dans les différents domaines par rapport au marketing et plus précisément par rapport aux besoins d'utilisateurs qui, s'il n'est pas content, il peut aller voir ailleurs finalement aujourd'hui.
Complètement, oui, complètement. Et c'est exactement ça. Et je pense que de plus en plus, il faut vraiment faire attention à mettre l'apprenant et son expérience au centre, quoi. C'est vraiment extrêmement important parce qu'effectivement, on n'arrivera pas à l'engager, on n'arrivera pas à lui faire retenir, à lui faire ancrer ses apprentissages si on n'arrive pas à l'engager et à créer en fait une émotion dans ses apprentissages, quoi. Donc, ouais, c'est un vrai, vrai sujet.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs types d'apprenants ou il y a une forme multiple pour attirer tous les apprenants?
Ce qui serait pratique.
Connais un peu la réponse.
Ouais. Alors, il y a certains neuromythes aujourd'hui qui persistent. Dire, par exemple, quand on dit « je suis plus visuel, je suis plus auditif, je suis… » Donc ça, typiquement, c'est un neuromythe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visuel ou d'auditif, mais évidemment qu'on a tous des appétences et des façons différentes d'apprendre. Mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui grâce aux sciences cognitives, c'est qu'on apprend le mieux quand notre cerveau est activé, quand notre cerveau crée des connexions neuronales. Et ça, c'est quand vraiment on est dans une position active d'apprentissage. Ce n'est pas quand on est passif derrière sa chaise en train d'écouter quelqu'un parler pendant 8 heures sur un ordinateur ou en présentiel, mais c'est vraiment quand on est activement engagé dans son apprentissage. Donc, ça peut être quand on est dans un jeu de rôle, quand on est dans un débat, quand on fait des projets, donc c'est vraiment quand on est vraiment dans une activité qu'on apprend le mieux et qu'on retient le mieux, quoi, parce qu'on est en plein dans une expérience et aujourd'hui on sait que c'est ça qui fonctionne le mieux pour l'engagement et la rétention surtout de l'apprentissage. Donc nous, c'est essentiellement ce qu'on essaie de développer chez nos clients, c'est vraiment comment on fait pour faire de la pédagogie active et de créer des parcours de formation en ligne, hors ligne, qui soient vraiment activants, quoi. Et c'est possible, c'est juste qu'en fait, ça sort complètement des sentiers battus parce que, évidemment, il faut imaginer plein de nouveaux dispositifs, modalités pour faire en sorte que, justement, on engage et on active l'apprenant pendant toute la durée de l'apprentissage, quoi. C'est un défi, mais je pense qu'aujourd'hui, on sait que c'est ça qui marche, donc il faut s'y mettre.
C'est peut-être plus stimulant sur les apprentissages et les formations. C'est toute la différence qu'il existe entre un apprentissage, l'homme apprend toujours, il ne se forme pas toujours. La formation, c'est la socialisation de l'apprentissage. Donc, c'est des habitudes qu'on définit. Et c'est vrai qu'on est 20e siècle sur nos formations, parce qu'elles sont codifiées d'une certaine façon. Et on s'aperçoit, grâce aux neurosciences, grâce aux nouvelles technologies, que l'apprentissage, on découvre l'apprentissage de nouvelles formes extraordinaires, neurones miroirs, les neurones en fuseau, etc. Et donc, on ne sait pas bien toujours à quoi ça sert, mais on découvre, on est en plein phase de découverte. Donc, d'un côté, il y a des choses qui explosent. Et puis après, on essaye d'en faire quelque chose d'un objet social. Et donc, c'est toute la formation. Et c'est là où on rentre dans la culture. C'est que finalement, bah, c'est plus pratique d'avoir les mêmes objets, même s'ils ne marchent pas très bien, parce qu'on les reproduit à l'identique. Et quand on voit arriver, avec les nouvelles technologies, avec les neurosciences, des choses qu'on ne sait pas bien calibrer, dans ces cas, on ne sait pas bien comment les intégrer dans une entreprise qui nous dise « on a un budget formation, on a tant de jours formation, il faut les écouler ». Et donc, et les partenaires sociaux qui sont des partenaires complètement légitimes dans la démarche, ben disent, nous, on contrôle un budget, on travaille sur une autre planète. Et donc, il faut que les planètes se rencontrent. Et c'est tout le travail que tu proposais de dire, c'est que les entreprises, finalement, ont besoin d'aller regarder d'autres planètes, de devenir des extraterrestres. Et donc, c'est un très, très beau travail que tu fais. Alors, comment tu fais pour une grande entreprise qui vient te voir en te disant, ben, moi, j'aimerais être à la pointe de ce qui se fait, tu lui dis quoi?
Alors d'abord, je lui fais passer mon diagnostic là, parce qu'en fait, c'est très important de commencer par un diagnostic, parce que souvent les gens se rendent pas forcément compte de où ils en sont. Ils vont me dire non mais là c'est une catastrophe, notre culture c'est une catastrophe, notre efficacité pédagogique c'est une catastrophe, et en fait peut-être pas. Et donc voilà, on fait passer d'abord notre diagnostic. Et notre diagnostic il est basé sur trois très grands critères qui ont plein de sous-critères. Le premier c'est la culture. C'est quoi la culture de l'entreprise par rapport au learning, par rapport au développement professionnel? Donc ça, on va aller regarder où est-ce que ça en est. Est-ce qu'il y a une culture assez ouverte par rapport à ça, ou est-ce que les gens, au contraire, ne se sentent pas légitimes d'aller se former, n'ont pas le temps, leur manager ne les laisse pas, etc. Donc ça, on va vraiment aller voir ça. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'efficacité pédagogique. Donc on va aller regarder des formations, on va aller regarder comment ça se passe en ligne, hors ligne. Est-ce qu'il y a un minimum d'active learning, ou est-ce que c'est, encore une fois, un ancien modèle très descendant et le même pour tous, quoi. Donc ça, on va regarder ça. Et ensuite, le troisième, c'est les compétences transmises. Est-ce que c'est des compétences qui sont pertinentes pour aujourd'hui et pour demain, ou est-ce que ça reste des formations sur étagère qu'on fait depuis 10 ans et bon, qu'on ne fait pas forcément évoluer avec les tendances du moment. Donc, et surtout les tendances métiers qui se développent et qui se transforment. Et donc, on va aller voir ça. Et donc, en fait, on envoie un questionnaire assez basique à peu près 5% des collaborateurs de l'entreprise qui vont avoir 3 semaines pour répondre. Et ensuite, derrière, nous, on fait de l'analyse de données. On regarde et on a des résultats. Et là, on fait une réunion avec tout le département formation, on montre un peu ces résultats-là. Et on dit, ben voilà, en fait, vous avez des forces et des faiblesses. Donc, voici les forces, voici les faiblesses. Maintenant, il faudra qu'on se concentre sur les faiblesses pour voir comment on fait pour améliorer ça, en fait. Parce que souvent, on ne peut pas se transformer si on n'a pas ces trois aspects-là. Si on n'a pas la culture qui va, si on n'a pas cette pensée pédagogique de dire, est-ce qu'on est efficace dans notre pédagogie? Est-ce que ça marche, ce qu'on fait? Et derrière, de se dire, est-ce qu'en fait, on transmet les bonnes choses, quoi? Est-ce qu'on forme sur les bons sujets? Et du coup, voilà, on travaille avec eux là-dessus. Après, on propose plusieurs choses. On peut proposer des learning expeditions pour emmener toute l'équipe dans des pays où vraiment ils ont, enfin, il y a vraiment énormément de transformations et où on fait complètement différemment. Donc, on a typiquement une learning expedition dans les pays nordiques, où on emmène parfois des départements entiers pour aller regarder en fait comment ça se passe, pour aller s'inspirer. Souvent les gens ont besoin d'un bol d'air frais pour se dire en fait c'est possible, d'autres l'ont fait, pourquoi pas nous. Et ça donne aussi un espèce de but et d'objectif pour l'équipe qui est assez engageant et motivant.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous dans le Nord qu'on n'aurait pas, nous?
Ils ont une autre mentalité, en fait, par rapport à l'éducation, à la formation, mais depuis le plus jeune âge, quoi. C'est-à-dire qu'en Finlande, au Danemark, en Norvège, on ne pense pas du tout l'apprentissage de la même façon. C'est vraiment un moment qui est presque... c'est un moment privilégié, quoi. On y va parce qu'on a, la chance de pouvoir aller se former. Et donc, chaque expérience apprenante est vraiment pensée de façon extrêmement fine et du coup c'est vraiment c'est pas des formations presque lambda. C'est vraiment chaque expérience est pensée pour chaque apprenant, et donc il dépense énormément aussi là-dedans. Donc quand on se forme, ça a vraiment un sens pour moi, pour l'entreprise, pour mon développement professionnel, personnel. Et c'est voilà, c'est pas la même mentalité, disons, par rapport à la formation. Et c'est intéressant du coup de parler avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là, pour avoir une autre perspective, quoi. Et après, on leur fait découvrir des universités, des lieux d'innovation, pour essayer que leur faire comprendre qu'en fait ça va au-delà. En fait, c'est un peu toute leur société qui est tournée vers l'innovation, le progrès, etc.
Super. C'est une dernière question, Stéphane. Je me lance ou tu te lances?
Oui, je t'en prie, il y en a encore un peu. Donc,
oui,
je t'en prie.
Oui, ça limite. Si vous avez des conseils à donner à une personne qui veut sortir des canaux, surtout un formateur ou un responsable des formations, des canaux classiques, bien sûr, s'il y a deux ou trois questions à leur donner pour commencer, oui. Comment faire?
Alors, moi, je conseillerais de sortir de son entreprise, d'aller à des conférences, des meet-ups. Il y en a plein. Enfin, je veux dire, on en fait avec EdTech France, mais enfin, il y a plein de trucs où vraiment d'aller sortir, d'aller parler avec ces nouveaux acteurs, d'aller rencontrer des startups, d'aller se nourrir vraiment. Parce que c'est vrai que quand on reste dans son day-to-day job, on n'a pas forcément le temps, l'occasion. Hein, on se dit bon, c'est un peu trop loin de mes réalités à moi. Mais en fait, c'est en sortant, en rencontrant toutes. Enfin, voilà, ça peut être des personnes, ça peut être des experts, ça peut être des startups, en rencontrant toutes ces personnes, en fait, on s'ouvre un peu les chakras et on se dit, mais en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est ça qui se transforme. Peut-être que moi, je peux commencer à implémenter une ou deux choses, mais c'est vraiment aller s'inspirer, lire des bouquins. Enfin, voilà. Après, je pourrais vous donner aussi une liste d'articles, de bouquins que je conseille aussi à mes clients pour qu'ils se. Voilà, si vous voulez le mettre aussi dans les références.
On le mettra, ouais, très bien. Ouais. Et si on prend EdTech France, par exemple, c'est pas réservé qu'aux producteurs d'EdTech, c'est aussi les responsables de formation, c'est un espace qui leur est dédié ou...
Alors, pas dédié, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, on est une association qui représente les startups.
Donc, de mémoire, vous êtes vice-présidente.
Oui, je suis vice-présidente d'EdTech France, en charge de tout ce qui est événementiel, voilà, donc justement, toute cette partie-là. Et en fait, on représente les startups, donc on a aujourd'hui plus de 215 membres startups qui s'inscrivent et qui payent une cotisation et en fait qui sont dans ce réseau, et on a des apéros startups tous les mois, etc. Donc ils se rencontrent, ils s'entraident, etc. Et ensuite on a des partenaires qui eux peuvent venir proposer leurs services ou leur collaboration aux startups. Donc là, on a plein d'entreprises, typiquement, soit des entreprises de la tech qui vont venir leur proposer des services techno, soit des entreprises comme La Poste qui vont venir et qui vont financer l'association pour être plus en lien avec ces startups-là. Et donc, typiquement, on va leur proposer des rencontres vraiment personnalisé pour eux. On va leur proposer pas mal de services pour qu'en fait ce soit plus simple pour ces grandes entreprises d'interagir avec nos startups. Mmh. Mais pour ça, voilà, faut devenir membre partenaire. Et c'est pas les mêmes conditions que les startups, évidemment, mais ça peut être une option de devenir membre partenaire.
Ça coûte combien d'être membre partenaire?
Ça dépend de quel membre. On a différents niveaux de membership, le premier niveau, c'est à peu près 5000 euros par an. Voilà, donc ça peut être une option. Et puis voilà, après, voilà. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de contacter Rémi Schall. Voilà, vous le contactez de ma part et il vous répondra. Et voilà, il y a le mail contact@edtechfrance.fr. Il y répond. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, de le contacter directement.
La grosse difficulté, le marché de la formation est un marché de cooptation. C'est un marché où on se dit, quand on a quelqu'un qui est innovant, si on ne le connaît pas, s'il n'est pas reconnu par la profession, dans ces cas-là, il n'a pas de valeur, il n'est pas légitime. Et donc, la majeure partie, le vrai problème qu'on ait, c'est pas tellement qu'il n'y ait pas de... Il y a énormément de choses extraordinaires en France puisque le marché est plutôt français de par l'histoire du droit, mais à l'international, il y a plein de choses formidables, sauf qu'il faut des agents qui disent, moi je lève la main, j'ai reconnu certaines personnes, je connais certaines choses intéressantes, donc je les identifie, je les labellise quelque part, et ça permet de rassurer le responsable de formation qui ne prendra pas un risque énorme s'il ne connaît pas, pour se dire, tel organisme me prend en charge quelque part, ou me reconnaît telle technologie, et donc je suis prêt à les regarder. Donc il y a tout un travail de vulgarisation et de reconnaissance qui est indispensable, parce que la grosse difficulté qu'on retrouve, et donc moi je trouve que ce que vous faites est assez extraordinaire pour ça, tout le land space, c'est que c'est ce travail-là, vous allez rechercher ailleurs pour apporter des choses, et les gens se disent, ben, avec votre expérience et votre connaissance, je prends, et après derrière, j'en fais quelque chose. Voilà. Et ça, c'est ce qui manquait, je crois, dans l'écosystème français. C'est des gens qui soient porteurs non pas d'une solution, mais d'un panorama. C'est ce qu'à la fin, on essaye modestement de faire pour dire, voilà, on a identifié certaines choses et il faut énormément d'agents qui le fassent parce qu'il y a un très, très gros travail de gens qui labellisent en disant, on les connaît, on les reconnaît. Donc, merci beaucoup à cela. Genre, une dernière question peut-être. Quand on se retrouve dans une entreprise, une grosse difficulté pour travailler avec des startups, c'est que, comme tu l'as dit, c'est pas le même rythme. Mais surtout aussi, les startups, il y en a beaucoup qui disparaissent. Donc, investir dans une startup qui disparaît et qui s'en va, c'est pour ça qu'on préfère la sécurité de la formation, puisqu'on a des startups qui ne sont pas dans mon même univers. Soit, est-ce qu'il y a des exemples où on rachète des startups, mais souvent la façon de les racheter, c'est une façon de les étouffer, parce qu'ils sont trop petits pour changer. Comment est-ce qu'on peut faire pour que justement cette petite pépite puisse se transformer toute la grosse structure ?
C'est une très bonne question. Alors déjà, il faut être, je pense qu'il faut être très conscient du temps qui n'est pas le même. Il ne faut pas tout de suite penser à faire des contrats pluriannuels avec une start-up. Non, il faut le penser comme expérimentation. On expérimente quelque chose de nouveau. Cette start-up va nous apporter une innovation et on va le faire petit à petit, quoi. Et on va grandir avec la start-up. Voilà. Et je pense que c'est important de changer un peu son état d'esprit par rapport à ça et de dire bah, pourquoi pas faire un pilote de 6 mois et puis on verra si ça marche bien. Et voilà. Après, c'est vrai que si vous travaillez avec des toutes petites pousses qui viennent de commencer, ça peut être un peu plus risqué que si vous travaillez avec des startups qui a déjà d'autres clients et qui a moins de risques en fait. Voilà, au bout de 2 ans, on dit toujours 2 ans, c'est un peu le seuil. Ceux qui arrivent à passer le cap des 2 ans, potentiellement, elles peuvent survivre. Alors pas toutes évidemment, mais c'est dans les 2 premières années que ça se joue aussi, quoi. Il y a 10% de startups qui persiste et donc ça fait pas beaucoup, mais au bout de 2 ans on peut déjà se dire ok, cette start-up a vécu 2 ans, si elle a déjà des clients c'est très bon signe, on n'est pas les seuls. Voilà, il y a des choses qu'il faut peut-être vérifier avant de signer le contrat, mais surtout pas s'embarquer sur des trucs pluriannuels. Non, il faut voir ça comme une expérimentation en fait. C'est ça l'innovation, c'est expérimenter, c'est itérer avec la start-up, de dire bah, ça nous va pas, est-ce qu'on peut peut-être itérer, est-ce qu'on peut peut-être, voilà, c'est en fait un nouveau mindset qu'il faut aussi adopter par rapport à ça.
Donc, ça veut dire un learning lab au sein des entreprises,
hein? Exactement. Ouais, par exemple, ça.
Le pari est lancé, c'est bon.
Exactement.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension stratégique en se disant, il y a quand même des éléments, on voyait que l'IoT, l'Internet des objets, donc ça va changer une nouvelle façon de voir des choses. Alors, on ne sait pas exactement quoi, parce qu'il n'y a pas les modes opératoires, mais quand on parlait de la blockchain, où la France essaye d'être terre de blockchain, donc BPI France met de l'argent pour financer des projets dessus. Donc, on sait qu'il y a des grandes stratégies technologiques qui vont complètement révolutionner la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail stratégique à repenser, hormis l'expérimentation qui est la partie opérationnelle et le changement culturel passe par le fait d'être des makers, comme on dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension stratégique en disant il y a des axes qu'il faut surveiller, il faut chercher des opportunités, faire des choix qui valent ce que valent les trajectoires technologiques. Est-ce que c'est bon, pas bon, on n'en sait rien avant.
C'est vrai, mais le problème, c'est que sans expérimentation, on ne pourra pas savoir si c'est bon pour nous, si c'est bon pour notre population d'apprenants, etc. Donc oui, moi, je pense que chaque direction formation devrait avoir un veilleur, quelqu'un qui est responsable de la veille, pour justement aller regarder ce qui se passe et se tenir au courant et se dire, mais tiens, cette technologie, elle est en pleine montée, est-ce qu'on ne peut pas aller regarder cette start-up. Mais je pense qu'on ne pourra jamais vraiment savoir si c'est adapté si on ne l'expérimente pas, en fait. Et donc, c'est pour ça que je reviens toujours à l'expérimentation, même si c'est très terre-à-terre. C'est que C'est, oui, il y a toutes ces technologies, mais aujourd'hui, voilà, est-ce qu'elles ont un impact? Est-ce que ça fait une vraie différence sur l'ancrage, sur la rétention, sur l'activation et l'engagement de l'apprenant? Tout ça, on peut le savoir que si on expérimente et derrière qu'on mesure en fait l'impact. Donc, il y a cette notion-là aussi de mesure de l'efficacité qui est souvent oubliée. On dit, oh, on travaille avec une start-up ou on teste un nouveau programme de formation, mais derrière, est-ce qu'il y a une vraie mesure digne de ce nom? De l'impact en fait que ça a eu sur l'engagement, sur la rétention, sur l'ancrage et derrière voilà sur la personne qui a suivi la formation, est-ce que ça l'a touché, est-ce qu'elle va s'en servir, est-ce que donc il y a vraiment aussi cette notion là qu'on essaie de travailler nous parce qu'elle est trop peu développée quoi.
Tu as un exemple ou deux d'entreprises qui ont fait des belles choses?
Alors pas directement, mais en tout cas, nous, on essaye de mettre en place certains modes en fait d'évaluation automatique des formations, non seulement par l'apprenant lui-même, mais aussi par le formateur, par la personne qui a créé le parcours de formation, essayer de comprendre différents points de vue en fait sur la chose et pas juste de dire ok est-ce que la personne a utilisé ce qu'elle a appris dans les six prochains mois, mais est-ce que ça a créé quelque chose? Parce que ça peut être un truc qui se déclenche beaucoup plus tard. Enfin, donc, on essaye d'évaluer. Enfin, c'est complexe parce qu'il y a de la psychologie, il y a plein de choses. Mais de dire, aujourd'hui, je pense que ça devrait être un élément essentiel, l'évaluation et la mesure d'impact. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas encore vu. Donc, je n'ai pas encore fait mon tour là, des entreprises pionnières du learning. Là. Peut-être que j'aurai des réponses quand je serai revenue de ce tour-là. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu de système vraiment qui le fait de façon automatique et systématique. Et c'est vrai que la mesure d'impact, comme je disais, il y a plein d'éléments à prendre en compte et c'est pas aussi facile que ça en fait. On expérimente des choses, mais c'est vraiment pas si facile que ça. Donc, ouais.
Je pense en parlant de Learning Lab, de veille, de recherche, d'innovation, l'idée c'est aussi faire de la formation un axe stratégique de la chaîne de valeur des organisations et non plus juste une fonction de support. Et je pense que ça peut faire changer beaucoup, surtout quand on parle de transformation numérique et tout ce qui peut coincer par rapport à la culture. Je pense que la formation a une place, pas juste comme fonction de support, mais dans la tête de la stratégie de l'entreprise.
Tout à fait d'accord.
Ben face à cette osmose, merci beaucoup, Zdenia. En tout cas, passez d'excellentes fêtes. Et on aura le plaisir de transmettre cette émission et puis de vous tenir au courant sur la diffusion. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les notes de l'émission. On rajoutera les notes que Svenia nous a proposé de mettre. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions, on essaiera d'y répondre. Et en tout cas, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous accompagner dessus. Merci beaucoup à tous. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.